Retrouvez le festival Les Embarqués les 15 et 16 juin au Parc de l'Hériposse en Normandie. Entre rêve et réalité, entre terre et eau, fêtez l'arrivée de l'été avec 2 jours de spectacles époustouflants. Théâtre, cirque, musique et danse, venez vivre le festival des Embarqués. Il vous entraînera au cœur de la nuit avec le spectacle pyrotechnique du célèbre groupe F et son ballet de drones. Spectacle ouvert à tous et gratuit. Tous les renseignements sur le site internet de l'agglomération Seine-Eure. Parking 5 euros.
Âme largesse, âme largesse, mais gardez pigé bendé, en éos du décharbonne, belle Michel del Cézroi, c'est mardi gras, tous les jours pour toi et moi, la boisson 2 fois par an, le loyer tous les 7 ans. Âme largesse, âme largesse.
La chorale Caneta, avec Manon Amar, entonne des chants de carnaval et de lutte pour débuter les gras.
C'est mardi gras, tous les jours pour toi et moi, la boisson 2 fois par an, le loyer tous les 7 ans.
Les Peines Sardines, ouvrières en lutte. Second épisode, Lucie Colliard, Joséphine Pencalette, deux femmes, deux destins. Margot Hartel, Guillaume Baldi.
On est samedi 10 février, c'est le premier jour des gras. Alors au marché le samedi, seuls les meilleurs sont déguisés.
Place des Halles.
Ça va monter
Douarnenez,
petit à petit.
Dans le Finistère.
À 15h30, on va accrocher le Den Paolig au fronton des Halles. Le Den Paolig, c'est la figure qui va nous accompagner pendant tous les gras et qu'on brûlera le mercredi soir comme dans beaucoup de carnavals dans le monde. Et ce soir, en fin de journée, là ça va commencer.
Un siècle plus tôt, en novembre 1924, les ouvrières, celles qu'on nommait les Peines Sardines, ces employées des conserveries de poissons, chantaient, elles aussi, et débutaient une grève historique pour de meilleures conditions de travail. Quelques semaines et rebondissements plus tard, en janvier 1925, c'est la victoire. Celle d'une foule restée pour la grande majorité anonyme. Quelques noms ont traversé le temps, comme Daniel Le Flanchec, le maire, ou Charles Tillon, syndicaliste et plus tard grand résistant. Mais aussi deux femmes, Lucie Colliard et Joséphine Pencalette. Deux destins qui se croisent à Douarnenez. La première est une militante chevronnée, syndicaliste à la CGTU, venue spécialement pour soutenir les grévistes et apporter des idées neuves. La deuxième est une douarneniste, ouvrière. Sa trajectoire, mal connue, est marquée par un événement d'ampleur. Alors même que les femmes ne sont ni électrices ni éligibles, elle deviendra, après la grève, l'une des premières femmes élues de France. Filmée en 1989 par Marie Elia, des anciennes travailleuses et grévistes évoquent Lucie Colliard.
Il y avait Gachin aussi. Il y avait Charles Tillon aussi. Charles Tillon est devenu beaucoup après. Oh, il était là avec le début. Oh, il était là avec le début, Charles Tillon. Oui, oui, et Lucie Colliard. Et Lucie Colliard.
Ça chante l'international. Hein. On attendait ça, je ne sais pas de où.
L'international.
Il y avait une femme et le drapeau rouge. Hein.
Oui.
Arlette Julien, de la revue Mémoire de la ville.
Sur Lucie Colliard, quand elle est arrivée, il faut imaginer donc une dame qui arrive en chapeau alors que tout le monde est en coiffe, une dame qui vient d'ailleurs, etc. Apparemment, il y avait des ouvrières qui se mettaient un peu dans un coin, mais c'est quoi cette femme? Elle vient chercher quoi? Il a fallu que les personnes s'apprivoisent un petit peu. Et en fin de compte, je pense qu'il y a eu comme une camaraderie, oui. Enfin, oui, il y a des liens qui se sont tissés.
Arlette, est-ce que vous pouvez nous parler de votre grand-mère qui faisait partie du comité de grève?
Lucie Colliard en parle dans son petit bouquin « Une belle grève de femme ». Elle lui dit « Je lui demandais, Augustine, combien vous gagnez, etc. » Et Augustine explique, et c'est Augustine, ma grand-mère. Voilà. Donc, elle a commencé par m'expliquer cela. C'est-à-dire que si elle s'est mise en grève, c'est que de toute façon, il n'y arrivait plus. Elle m'a dit tel que, on était révoltés, il fallait le faire. On n'a pas eu besoin d'être, poussé, on n'a pas été influencé pour le faire, mais elle nous a appris beaucoup, Lucie Colliard. C'est-à-dire un cours d'économie presque. C'est-à-dire, en fait, vous êtes payé tant et la boîte de sardines, ça revient à temps pour le patron et elle est vendue tant et ça va pas. Donc, ce discours-là, elle l'a appris et compris à ce moment-là. Elle disait, on a appris beaucoup de choses, quoi. Voilà.
Elle ne s'occupait pas simplement de donner d'aider pour les grèves, etc., pour essayer de les syndicaliser, etc. C'était un peu difficile, d'ailleurs, quelquefois. Bon, mais au début, non, mais après, bon. Mais c'était aussi qu'elle leur faisait un peu le planning familial.
Anne Denès-Martin.
Et ça, ça déplaisait énormément.
Écrivaine.
Elle a été la bête noire de tout le monde. Lucie Colliard, pourquoi ? D'abord des curés. Des curés, bien sûr. Et puis, quand même, peut-être de la mentalité en général. C'était une féministe, c'est certain. Le mot n'existait sans doute pas à l'époque, ou on ne le disait pas, même si elle se sentait, et qui a beaucoup parlé avec les femmes. Alors, d'où elle était syndicaliste, elle était à la... c'était l'ancienne CGT, CGTU, oui.
Mais il y a une autre personne, je ne sais pas si vous allez la rencontrer, Marie Elia, qui est cinéaste, qui va faire un article pour elle, enfin un article complet concernant sa présence à Douarnenez.
Alors, Lucie Colliard, une oubliée de l'histoire, effacée de l'histoire, comme tellement de femmes. Et c'est une ancienne, elle a un parcours incroyable, cette femme. Elle est née en 1877 en Haute-Savoie, dans une famille de paysans ordinaires, pas très riche évidemment. Elle devient institutrice, donc elle sort de sa condition et elle adhère à l'amicale des instituteurs de l'époque et elle rencontre le mouvement pacifiste. Donc à la base, c'est une pacifiste. Quand la guerre 14-18 arrive, elle est très ébranlée évidemment. Et elle continue à militer contre la guerre. Et là, elle est internée pour antimilitarisme et pour saper le moral national. Elle est condamnée à 2 ans de prison, finalement, elle fera 2 mois. C'est cette petite institutrice de Haute-Savoie, elle se retrouve à faire des discours devant Lénine, à créer la Journée internationale des droits des femmes avec Clara Zetkin, Rosa Luxembourg et tout le monde. Elle se marie quand même. Mais elle divorce assez vite, elle a des enfants qu'elle est obligée de placer en institution ou chez des amis parce que son militantisme prend toute la place dans sa vie. Et elle est révoquée de l'éducation nationale et employée par la CGTU, à peu près au même salaire qu'un STIT. Et là, elle commence à... Elle, son truc, c'est, ça devient le syndicalisme. Et un syndicalisme d'action directe, quoi. Parce que contrairement aux hommes, elle se préoccupe, elle est très terre-à-terre. Elle dit, bon, sans être revendiquée d'être féministe, elle fait tout pour que les femmes puissent manifester, faire grève, c'est-à-dire donc elle fait des crèches. Quand il y a un mouvement social qui se met en branle, elle crée comme ça les conditions pratiques pour que les femmes puissent aussi manifester. Elle fait des crèches, puis elle aime bien faire des grands pique-niques, parce qu'elle dit que la lutte doit être aussi heureuse, qu'il faut y avoir du plaisir à lutter ensemble. Donc elle a comme ça, elle est très pragmatique. Elle est contre les répartitions par branche dans le syndicalisme. Elle dit qu'il faut accueillir tout le monde, quelles que soient les idées politiques des gens. Et c'est ce qui fait qu'elle est très appréciée à Douarnenez, parce qu'elle fait pas la morale, quoi. Toutes les femmes qui font grève le matin, elles sont à la messe à 9h du matin. Et ça choque, enfin, certains au Parti communiste ne veulent pas de cette double appartenance, mais qui fait partie des gens, point. Et elle a cette intelligence d'accepter les femmes telles qu'elles sont, et de leur parler beaucoup, de leur apprendre ce qu'elles pourraient être, et pas qu'elles ne sont pas obligées de subir des salaires inférieurs aux hommes, des maternités non désirées, enfin, une vie, c'est des femmes, elles travaillaient à l'usine 12 heures par jour et je sais pas quand elles dormaient. Donc Lucie Colliard, elle vient, elle est appelée à Douarnenez pour aider les grévistes à s'organiser. C'est elle qui prend en charge les soupes populaires avec d'autres jeunes militants qu'elle amène. Et puis c'est elle qui... Au début, c'est des manifestations dans toute la ville par petits groupes de femmes. Elle organise la grande manifestation du soir. Elle parle tous les soirs, elle rassure. Elle organise des grands repas, elle fait un Noël pour les enfants, parce que c'est dur. Quand la période de Noël arrive, ça commence à flancher un peu. Enfin, à flancher. Si, quand même, là, les grèves, il fait très froid, il n'y a pas d'argent. Alors, il y a un gros soutien national. Et Collière, elle lâche pas l'affaire, donc il donne de l'argent un petit peu aux gens. Pris sur les caisses de grève, il donne 10 francs, je crois.
Et la grève se déroula dans un enthousiasme toujours croissant. Au fur et à mesure que ces braves gens se rendaient compte qu'il leur était possible d'acquérir une vie plus large et plus digne, au fur et à mesure qu'ils prenaient conscience de leurs droits les plus sacrés et qu'ils constataient les heureux résultats d'une solidarité ouvrière vigilante et vraiment parfaite en l'occurrence. Lucie Colliard, Une belle grève de femmes, 1925.
Alors, en fait, Lucie Collière, il y a très très peu de choses sur elle un peu partout. Mais au moins, il y a une chose, c'est les fiches de police. Elle a toujours été fichée par la police. Donc on peut suivre ses paroles. Il n'y a pas de trace directe de ses discours, c'est juste les rapports du préfet, faits au préfet. À la fin de la grève, elle est repartie dans le nez. Et petit à petit, elle était vraiment en tension avec la direction du parti, pourtant elle était membre du comité. Mais donc elle a été virée. Elle a repris son poste d'institutrice et elle a décidé de s'occuper de ses enfants aussi, puisqu'elle avait quand même deux enfants qu'elle avait quasiment pas élevés jusqu'à leurs 10-12 ans. Elle était conseillère municipale à Clichy pour la SFIO. Elle a soutenu les républicains espagnols, elle aidait les gamins à faire leurs devoirs, les gens à écrire leurs courriers, enfin bon. Un militantisme vraiment, c'est une femme de terrain. Elle a jamais ramené les choses à elle, quoi. Toujours. Elle est morte en 61, il y avait toute la ville à son enterrement, quoi. C'était Victor Hugo, son enterrement, quoi.
Lucie Colliard n'a pas de rue à son nom. Le climat ne nous incite pas à nous rendre rue Joséphine Pencalette, loin du centre. Son histoire à elle se déroule entre le port et les anciennes conserveries. Est-ce que les ouvrières vous ont parlé de Joséphine Pencalette ?
Oui, Joséphine Pencalette.
Ah bah c'est la star de Dornenay, c'est la première femme élue.
Que par des hommes aussi, ce qui est quand même remarquable.
Quand on a commencé à la redécouvrir, moi ça m'a fait bizarre.
Joséphine Pencalette est une illustre inconnue.
Je crois qu'à un moment il y avait besoin de visage pour incarner aussi cette grève.
Fanny Bunion, historienne. Rencontrée au musée de Bretagne, Champs Libres, à Rennes.
Alors Joséphine Pencalette, elle est née en 1886 à Douarnenez. Son père est marin, sa mère est fille de friture au moment de leur mariage. Elle est la 12e sur 13. Elle perd sa mère quand elle a 12 ans. Joséphine Pencalette, on ne sait pas exactement à quel âge elle est rentrée à l'usine. Il est possible, c'est une hypothèse sérieuse, mais qui ne peut pas être étayée, donc il faut rester au conditionnel, qu'elle ait été ouvrière d'usine dès l'âge de 12-13 ans, comme cela se pratiquait à l'époque. Alors le portrait qui est le plus connu d'elle, c'est cette photo donc, où elle pose avec sa coiffe, avec un petit camé, elle a un sourire moi, qui me rappelle la Joconde. Elle ne va pas rester à Douarnenez, elle va quitter Douarnenez pour vivre pendant 15 ans, à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Alors à l'époque, ça s'appelle la Seine-et-Oise. Pourquoi est-ce qu'elle part à Argenteuil ? Eh bien, parce qu'elle a rencontré un homme qui s'appelle Léon Leray. Vraisemblablement, au moment où il faisait son service militaire dans la marine et qui a dû débarquer à Douarnenez. Et elle va le rejoindre à Argenteuil et elle va y rester au moins jusqu'à l'automne 1923, puisqu'à l'automne 1923, Léon Leray, son époux, va décéder de la fièvre typhoïde. Elle a deux enfants à charge. On ne sait pas exactement à quelle date elle est revenue à Douarnenez, mais elle revient. Selon toute logique, elle est embauchée dans une usine. Alors, au moment de la grève, on ne sait pas dans quelle usine elle travaille. Moi, j'ai une hypothèse. Si elle a fait toute sa carrière dans la même, c'est qu'elle a travaillé à l'usine Amieux.
Que sait-on de ses activités pendant la grève ?
Rien.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le musée de Bretagne vous propose une visite commentée intitulée « Bretagne rebelle », accessible à partir de 12 ans. Rendez-vous à 16h au musée de Bretagne. Merci et bonne journée.
Ce qu'on sait, parce qu'il y a des archives écrites qui permettent de l'attester, c'est qu'elle a, après la grève, eu des responsabilités syndicales. Et puis, par la suite, elle va participer à l'été 1925 au congrès national de la CGTU qui se tient à Paris. Elle est présente au titre du syndicat de l'alimentation.
The Digger's Song, chant de lutte des travailleurs de la terre, écrit au XVIIe siècle et interprété par les choristes de Cornita.
Joséphine Pencalette se retrouve effectivement en quatrième position sur la liste emmenée par Daniel Leflanchec pour le premier tour du scrutin municipal du 3 mai 1925. Alors c'est intéressant sa position parce qu'elle est quatrième. Le premier c'est Daniel Leflanchec qui est ex-maire puisqu'il a été suspendu. Ensuite il y a ses deux anciens adjoints qui sont donc les adjoints sortants. Et puis ensuite il y a elle. Et après il y a tous les autres candidats qui... pour la plupart d'entre eux, sont des conseillers sortants classés par ordre alphabétique. La question, c'est comment est-ce qu'elle fait pour arriver là ? Alors, elle arrive là parce que il y a une consigne qui est donnée par Clara Zetkin, qui est une femme qui a marqué l'histoire du mouvement ouvrier, allemand et international. Elle a une double casquette. Elle fait à la fois partie du comité exécutif du Comintern, donc de l'international communiste à Moscou, et puis aussi les secrétaires générales du secrétariat féminin. Et en janvier 1925, parce qu'elle a appris que la loi électorale qui concerne les élections municipales n'interdisait pas aux femmes de se présenter aux élections, elle écrit à Marguerite Foscave, qui est son pendant pour le secrétariat féminin en France, qu'il faut présenter des femmes, en tout cas qu'il y a une opportunité intéressante pour développer le travail parmi les femmes, montrer que le Parti communiste est capable de mettre en pratique l'égalité qui est sa colonne vertébrale et de faire comme en Russie que les femmes aient les mêmes droits que les hommes depuis 1917, en tout cas sur le plan du droit de vote. Donc effectivement, la loi électorale d'avril 1884 comporte une brèche. Alors, ce n'est pas le Parti communiste qui a découvert cette brèche, hein. Les féministes suffragistes qui se mobilisent depuis les années 1880 pour obtenir des droits politiques égaux entre les femmes et les hommes la connaissent, cette brèche, puisqu'elles se sont déjà présentées aux élections. Parce qu'en fait, le préfet, la préfecture, est chargée de vérifier que toutes les personnes déclarées élues sont bien éligibles et vérifier qu'il n'y a pas eu d'irrégularité. Donc en fait, rien n'interdit aux femmes de se présenter aux élections. C'est pour ça que des féministes suffragistes se sont présentées aux élections, mais sans jamais réussir à obtenir suffisamment de voix pour être élues. La nouveauté, c'est qu'en 1925, donc à la fois le Parti communiste va présenter des femmes, et puis le ministère de l'Intérieur ouvre une porte, parce qu'en 1925, la question du droit de vote des femmes, elle est d'actualité. Il y a trois propositions de loi qui sont déposées par des députés de bords différents pour donner des droits politiques aux femmes. Il faut savoir que les députés français avaient déjà voté en 1919 les droits politiques pour les femmes à une très large majorité. Décision qu'avait rejeté le Sénat en 1922, mais donc c'était un sujet politique du moment. Donc en 1925, le ministère de l'Intérieur mentionne, donne une circulaire télégraphique, visiblement, qui dit qu'il faut comptabiliser, contrairement à ce qui se faisait auparavant, que désormais il faut comptabiliser les voix qui se porteraient sur des candidatures féminines. Donc c'est aussi une manière, je pense, de tester, de voir un peu ce que ça représente. Est-ce qu'on va voter pour elle ou pas? Sachant que ce sont toujours les hommes qui votent, hein, il n'y a pas de changement de la constitution du corps électoral. Donc en plus, on autorise cela. Donc on a des statistiques hein, qui sont produites. Alors il y a peu de femmes qui vont être élues, hein, il y en a 10. Joséphine Pencalette, c'est la seule en Bretagne. Il y en a 2 également qui vont être élues à Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours, qui est aussi un fief ouvrier, un fief du parti communiste. Et puis les autres, dans ce qu'on appelle la banlieue rouge qui ceinture Paris, à Bobigny, à Saint-Denis, à Malakoff, à Ivry. Alors Joséphine Pencalette, elle va être très mise en avant par le Parti communiste, par le journal L'Humanité, parce que c'est une ouvrière, qu'elle est liée à l'histoire de cette grève victorieuse, mais sans jamais expliquer comment elle s'est retrouvée là. Le seul élément dont on dispose, ce sont les mémoires de Charles Tillon, dans un des volumes qui s'appelle « On chantait rouge », qu'il a publié en 1977, dans lequel il y a tout un chapitre où il raconte en fait sa venue à Douarnenez, parce qu'il va lui aussi être élu. Hein, il est avant-dernier sur la liste de Daniel Leflanchec. Il raconte dans On chantait rouge qu'ils allaient présenter une femme. Alors ils disent pas que c'est conformément à la consigne qui a été donnée par Moscou et par le parti. Mais ce qu'il explique, c'est que le plus difficile n'était pas de faire élire une femme. Au regard de la grève, c'était évident de l'assise, de l'ancrage développé par Daniel Leflanchec et le Parti communiste localement, c'était évident qu'ils allaient remporter à nouveau le conseil municipal. Le plus difficile a été de trouver une candidate. Et ce que dit, je cite de mémoire, Charles Tillon, donc il fallait trouver une femme qui consentit à jouer les suffragettes, dit-il, comme en Angleterre. Pas un seul ménage n'accepta ce sacrifice. Seule une avenante veuve se dévoua. Elle avait souvent tenu le drapeau rouge, elle avait souvent tenu tête au patron, etc.
Les femmes eussent-elles voté que la victoire de Leflanchec s'en fût encore renforcée? Pourquoi ne pas présenter au moins une femme aux côtés de Leflanchec en dépit des lois? À vrai dire, la difficulté n'était pas de la faire élire, mais de trouver une citoyenne qui consentit à jouer les suffragettes, comme en Angleterre. Pas un ménage n'accepta ce sacrifice. Seule une avenante veuve, Joséphine Pencalette, se dévoua. Elle avait souvent tenu le drapeau rouge par les rues, elle sut se moquer des menaces du préfet, trinquer avec les pêcheurs et rembarrer les blagueurs. Toute la liste communiste dont je faisais partie fut donc élue, triomphalement. Charles Tillon, On chantait rouge, 1977.
Elle signe à côté de son nom et elle participe aux travaux du conseil municipal pendant au moins 6 mois, puisqu'elle elle signe le registre des séances. Alors, sur son activité à proprement parler, on a juste 2 éléments. C'est qu'elle a fait partie de 2 commissions. Première commission, la commission des affaires scolaires. Et deuxième commission à laquelle elle participait, la commission d'hygiène, donc des questions de santé et d'hygiène. Ce qu'on sait, c'est que la préfecture va engager rapidement une procédure en annulation. Donc il y a un premier conseil de préfecture qui se tient, elle n'y est pas présente. Elle dépose un mémoire dans lequel elle fait valoir qu'elle conteste le souhait d'invalider son élection, que son élection est le résultat de l'expression de la volonté populaire et qu'à ce titre, il faut la respecter. Elle va siéger, elle, jusqu'en novembre 1925, jusqu'à la décision finale du Conseil d'État qui intervient à la fin du mois de novembre 1925. Elle est purement et simplement rayée. Son nom est rayé du registre des délibérations du conseil municipal, purement et simplement rayé. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'il n'y ait pas mention dans le registre des délibérations du conseil municipal d'une protestation du conseil. Je dis que ça me surprend parce que le conseil, à plusieurs reprises, a voté des protestations sur des sujets qui n'avaient rien à voir. Protester contre la guerre du Maroc, décider de baptiser une rue Louise Michel ou une rue Eugène Potier du nom de deux communards. Il y a une culture de la confrontation avec la préfecture assez présente. Et j'avoue que j'ai été très surprise de voir que l'annulation de l'élection n'avait donné lieu à aucune protestation écrite de la part du conseil. Est-ce que c'est parce que Daniel Le Flanchec était en conflit avec elle, et c'est vraisemblablement cette option-là. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais dans un rapport interne au Parti communiste, enfin de l'International communiste, il est fait mention d'une situation conflictuelle avec sa conseillère municipale, pour une raison que j'ignore.
Vous avez rencontré ses descendants, notamment sa petite-fille. Mmh. Est-ce que vous savez comment Joséphine Benkelet a réagi ?
C'était un sujet dont visiblement ils ne parlaient pas trop, qui était connu, dont ils avaient connaissance, mais qui n'était pas un objet de gloriole, de glorification pour elle. C'était un élément dans sa trajectoire, mais dont elle ne cherchait pas à faire un étendard. Elle est morte en 1972, à Douarnenez, quelques semaines avant son 86e anniversaire. Son décès ne donne pas lieu à la remémoration de son élection. Elle a traversé, moi c'est l'impression que j'ai, hein, la suite de sa vie, c'est-à-dire en fait près de 50 ans, sans que cet élément revienne. Par contre, ce que ses descendants m'ont rapporté, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, elle a toujours dit à ses enfants et ses petits-enfants de ne pas voter. Elle a dit qu'il ne fallait pas voter.
Mes mots, s'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon corps dans la marmelade aux pommes préparée à...
C'était Les Peines Sardines, ouvrières en lutte, second épisode, Lucie Colliard, Joséphine Benkelet, deux femmes, deux destins. Merci aux historiens Fanny Bunion, Théo Bernard et Alain Ledoaré. À Anne Denès-Martin, écrivaine, Marie Elia, réalisatrice, Marie-Aline Lagadic et Clairvy Rivière, chanteuse, et Arlette Julien, de la revue Mémoire de la Ville. Un grand merci à Manon Amar et à toutes les choristes de Cornita. Les archives sont issues du film L'usine rouge, réalisé par Marie Elia. Une histoire particulière, attachée de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Margot Hartel, réalisé par Guillaume Baldi.
Je ne mâche pas. Au nom de la terre, la joie, au cœur d'un petit chaud, de la terre. tarentelle et du tartare en couteau, du coulis aux fraises et de ma voix dans l'écho. Je ne marche pas, je ne marche pas, je ne marche pas.